À sommet exceptionnel, sécurité exceptionnelle, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui joue gros d'ailleurs personnellement face à ce défi sécuritaire dans les prochains jours, vient de donner les détails. On parlait d'un peu plus de 10 000 policiers et gendarmes. Ce sera très exactement 13 500 policiers et gendarmes qui vont quadriller Biarritz et sa région à l'occasion du G7. 13 500 policiers et gendarmes dans une ville pendant 2 jours, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un dispositif national pendant les mouvements des Gilets jaunes. Il faut ajouter l'armée qui sera également les 3 armées qui seront mobilisées. Nous allons faire le détail dans un instant avec notre envoyé spécial Jean-Jacques Héry qui était à Biarritz. La sécurité des grands a un prix, ça vous fait peut-être réagir, ben n'hésitez pas au 39-21. Deuxième sujet du jour, la rentrée scolaire avec une double actualité aujourd'hui, le début du versement de la fameuse allocation de rentrée qui va s'échelonner entre 368 et 400 5 euros en fonction des revenus. Une rentrée plus chère, nous disent les fédérations de parents d'élèves et de familles de France. Plus chère notamment au niveau des fournitures. Et pourtant, on peut faire mieux. On peut faire une rentrée verte, une rentrée durable. Nous serons avec une des responsables de l'ADEME tout à l'heure à 18h10 qui va nous donner quelques trucs pour une véritable rentrée écolo. À la mode, n'hésitez pas vous, est-ce que vous faites des gestes particuliers, est-ce que vous avez des attitudes particulières pour préparer cette rentrée, le 39-21 est là pour vous. Très cher cinéma français, cher dans les deux sens du terme, on l'aime, mais il coûte beaucoup d'argent. C'est le pamphlet qu'Éric Neuhoff, notre confrère du Figaro, publie dans quelques jours. Et au moment où le Festival d'Angoulême, qui est la grande rentrée du cinéma français, s'ouvre, eh bien nous écouterons Éric Neuhoff. Vous êtes plutôt Kechiche, plutôt Tarantino, plutôt blockbuster, plutôt cinéma de création français. Là également, nous attendons vos avis au 39-21. Et puis restez bien à l'écoute, à 19h15, nous serons avec un homme, le seul à avoir dans les années 70, eh bien mis sur la place public son homosexualité. Olivier Rouillet, le Nancéen, ne supporte plus les cris homophobes dans les tribunes comme on l'a vécu ce week-end à Nancy justement, en deuxième division, ou à Rennes en première division. Lui, il va très loin, il propose tout simplement qu'on arrête les matchs au moment des slogans homophobes et que les clubs soient sanctionnés. Nous serons en direct avec Olivier Rouillet à 19h10, et là également le 39-21 est ouvert. C'est votre grand journal du soir, c'est le grand journal de l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
18h, 20h,
votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Mais comment ne pas débuter ce tour de l'actualité par ces images insoutenables que nous vivons depuis 2 jours et qui tournent en boucle sur nos écrans. Ces migrants désespérés qui se jettent à l'eau à quelques centaines de mètres de cette terre promise qui se ferme à eux, la terre de Lampedusa, en Italie. Certains sont là depuis 19 jours à bord de l'Open Arms, ce navire humanitaire parti à leur secours entre la Libye et l'Italie. Et toujours pas de solution côté italien. L'Europe veut venir en aide, notamment l'Espagne. Bonsoir Éliane Terzian.
Bonsoir François.
Face à ces images évidemment terribles, les Espagnols ont décidé de réagir et apportent, au moment où nous parlons, Hélène, leur aide.
Exactement. Madrid vient d'envoyer, il y a maintenant 1 heure, un navire militaire à Lampedusa pour récupérer les migrants à bord du bateau. Ils sont désormais un peu moins d'une centaine et certains sont à bord, vous l'avez dit, depuis 19 jours maintenant. Le bateau espagnol est parti du sud du pays, plus précisément de la base de la Rota, il lui faudra 3 jours pour rejoindre l'île italienne. C'est là qu'il prendra en charge les réfugiés recueillis par l'Open Arms pour les mener jusqu'au port de Palma de Mallorca aux Baléares. Pour le gouvernement espagnol, cette solution permettra, je cite, de résoudre l'urgence humanitaire vécue à bord de l'Open Arms. Rappelons que face au refus de Rome de laisser les migrants débarquer, Madrid avait fini par proposer au bateau humanitaire de rejoindre l'extrême sud de l'Espagne, puis les Baléares, un peu plus proche de Lampedusa. 2 propositions balayées par l'ONG. La distance pour rallier ces ports étant trop importante. Alors François, on ne sait pas encore ce qui a motivé la décision de Madrid d'envoyer un bateau sur place. Force est de constater qu'elle est intervenue quelques heures après ce geste désespéré des migrants qui se sont jetés à l'eau.
Merci Hélène Terzian.
Europe 1, il est 18h04, c'est votre grand journal avec François Claus.
Et nous allons prendre la direction de Biarritz à 3 jours maintenant de l'ouverture du G7. Nous allons retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Jean-Jacques Héry. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir François.
Vous étiez cet après-midi en compagnie du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a détaillé le dispositif de sécurité, la manière dont la ville serait dans les prochaines heures quadrillée et contrôlée. On parlait d'un peu plus de 10 000 policiers et gendarmes. Le chiffre est désormais précis, 13 200 policiers et gendarmes sur le pont Jean-Jacques Herry, dispositif exceptionnel.
Oui, avec des forces qui sont déjà très visibles ici à Biarritz, hein, vous l'imaginez, à côté de la gare, sur quasiment tous les ronds-points, dans une ville qui se prépare à ce fameux sommet du G7. On entendait déjà les hélicoptères survoler la ville cet après-midi, et ce sera comme ça jusqu'en début de semaine prochaine pour répondre à trois menaces majeures listées par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, tout à l'heure. Le terrorisme, les menaces sur la cybersécurité, et surtout les éventuels débordements liés au contre-sommet du G7.
Il n'est pas question d'empêcher la libre expression non violente des opinions. Mais il doit être bien clair que nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. Notre objectif a pour but de permettre la dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de troubles.
Ce qui est frappant ici, c'est l'immense variété des forces mobilisées. Il y a des motards, des vététistes, et il faut également signaler la présence de l'armée, armée de l'air, armée de terre, marine, ainsi que d'un important dispositif anti-drone dans une ville qu'il est de toute façon interdit de survoler durant toute la durée du sommet. Et puis, dernier point à évoquer, l'importante coordination avec les forces espagnoles, tant dans l'opérationnel de l'autre côté de la frontière qu'en matière de renseignement pour prévenir d'éventuelles menaces.
Merci Jean-Jacques Herry, car oui, la sécurité de Biarritz, elle se joue sur le terrain, mais elle se joue aussi en amont. Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1, bonsoir.
Bonsoir.
Et on a appris, justement, que dans la surveillance et face au risque d'intrusion des altermondialistes ou des black blocs, comme on les appelle, les policiers et les renseignements travaillent déjà en amont un travail de contrôle, de surveillance très minutieux qui a déjà porté ses fruits.
Oui, Guillaume. Puisque hier matin, 5 suspects ont été arrêtés. L'un d'entre eux est toujours en garde à vue ce soir. Tout est parti de messages inquiétants publiés sur Internet il y a quelques jours seulement. Plusieurs personnes qui échangeaient sur les réseaux sociaux ont évoqué l'idée de s'en prendre à un hôtel des Landes, un hôtel qui doit accueillir des gendarmes participant à la sécurité du sommet du G7. C'est une femme qui, la première, a divulgué le nom et l'emplacement de cet hôtel, ce qui a entraîné des réponses, des appels à la violence et notamment un message appelant, je cite, à faire cramer l'hôtel. L'enquête a donc été menée très rapidement par les gendarmes pour identifier et localiser les auteurs de ces messages qui ont été arrêtés. Au total, 3 hommes et 2 femmes placés en garde à vue hier, des suspects qui ont entre 24 et 44 ans. Originaires d'un peu partout en France, ils ont été interpellés notamment à Hendaye, à Tours et en région parisienne. Certains d'entre eux sont connus des services de police pour faire partie de la mouvance anarchiste. Mais après un peu plus de 24 heures de garde à vue, 4 d'entre eux ont été remis en liberté aujourd'hui. Pas de poursuite judiciaire à ce stade. Seul un homme est toujours interrogé, soupçonné de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit par moyen électronique. C'est lui qui aurait lancé l'idée d'incendier l'hôtel. Un projet qui est resté virtuel, une menace en ligne. Mais à ce stade, les enquêteurs n'ont pas trouvé d'indice, laissant penser que les suspects allaient réellement passer à l'acte.
Et on l'a compris, les menaces se sont quand même prises au sérieux quand on repense aux morts à Gênes en 2001 pendant un G7 et aux très graves incidents de Hambourg il y a 2 ans pendant un G20 également. Et évidemment, un tel scénario, on ne veut pas que ça se reproduise ce week-end à Biarritz.
Europe 1. Et dans un instant, François, vous serez avec votre invitée Florence Clément, coordinatrice de l'information du grand public à l'ADEME, pour parler du budget de la rentrée scolaire.
Et puis pour parler d'une rentrée verte, comment être nous-mêmes responsables, durables avec nos enfants. Vous allez voir des conseils tout à fait concrets, je suis sûr, nous serons donnés par l'ADEME.
Il est 18h10 et on va à présent parler de la rentrée scolaire, François.
Et oui, Johanna, on va parler de la rentrée. Alors, je sais, c'est un petit peu déprimant lorsque nous sommes le 20 août, qu'on annonce encore une grande semaine estivale. Nous sommes encore, pour certains, au cœur des vacances et au cœur de l'été. Et pourtant, la rentrée, elle se prépare en ce moment même. On évoquait hier les difficultés des étudiants en termes de logement. Une double actualité aujourd'hui pour la rentrée scolaire des collégiens et des écoliers. C'est d'abord le début des fameuses allocations de rentrée de la CAF qui vont arriver chez les particuliers. On le sait, entre 368 et 402 euros en fonction des revenus et de l'âge des enfants. 3 millions de ménages devraient en bénéficier. Et une allocation qui va faire du bien quand on voit le coût de cette rentrée 2019 tel qu'il se profile, puisque d'un autre côté, Famille de France présentait ce matin ses comptes et estime qu'il faut compter environ 195 euros pour la rentrée d'un enfant en 6e cette année, une hausse de 1% et notamment une grosse pression sur le prix des fournitures scolaires. Nous sommes en direct ce soir sur Europe 1 avec Florence Clément, qui est coordinatrice de l'information du grand public à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, parce que oui, bonsoir Madame Clément.
Oui, bonsoir.
Oui, il y a des économies qu'on peut faire tout simplement si on est responsable et si on prend une dimension, un petit peu durable à notre pratique de commerce pour cette rentrée. Et vous avez des conseils très précis à nous formuler ce soir, Florence Clément.
Oui, déjà, rappeler qu'une rentrée plus écologique, c'est pas forcément une rentrée plus chère. Il y a énormément de choses qu'on peut conserver d'une année sur l'autre. Souvent, le cartable est encore en bon état, la trousse aussi. Il est fort probable que la règle, le compas ne soient pas forcément à renouveler, la paire de ciseaux non plus.
Ce qu'il faut, oui, Florence Clément, c'est résister à la pression des enfants qui veulent systématiquement, pour chaque rentrée, et ça fait partie de la dynamique et du plaisir de la rentrée chez les enfants, quelque chose de neuf.
Oui, alors les enfants, généralement, comprennent bien quand on leur donne du sens. C'est-à-dire que si on leur dit non, c'est tout, forcément, ils ne comprennent pas pourquoi. Si on leur explique que tout ce qu'on jette encore en bon état, c'est des déchets supplémentaires à la poubelle, ça vient encore créer des problèmes supplémentaires pour la planète, et que le premier geste écologique, c'est avant tout de conserver tout ce qui est en bon état, et ça, on peut tous le faire, enfants comme adultes, ils sont déjà beaucoup plus prêts à participer, hein.
Oui, c'est une affaire de pédagogie, de donner du sens. Exactement. Comme vous dites. Après, ouais, il y a des conseils très précis sur ce qu'on achète au magasin en termes de papier, en termes de cahier. Il y a des labels. Est-ce qu'ils sont fiables et est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés?
Il y a des labels écologiques, en effet, et c'est très important de les connaître, en fait, de pouvoir identifier ceux qui méritent qu'on s'y attache. Alors, sur le papier, il y a des labels comme l'écolabel européen, c'est une petite fleur. Et vous avez aussi le Nordic Swan, vous avez l'Ange Bleu, c'est des papiers, en fait, qui vont garantir que toute la fabrication et aussi la matière utilisée pour fabriquer le papier, en fait, vont limiter leurs impacts sur l'environnement. Ils vont pas utiliser de substances toxiques, une majorité de fibres, en fait, va être réutilisée. C'est des fibres recyclées et non pas des fibres vierges. Voilà, ça a du sens, en fait, tout ça. Et ces logos, ils sont là justement pour aider les consommateurs. Donc, il faut vraiment s'en préoccuper avant d'aller en magasin. Par exemple, sur le site de l'ADEME, on a des pages entières qui sont consacrées à la bonne façon de connaître ces logos, à ceux qu'il faut savoir repérer. Hein, c'est www.adem.fr/labels-environnementaux. Ça permet vraiment aux parents de savoir ce qu'ils vont acheter.
Alors, vos propos, Florence Clément, intéressent énormément nos auditeurs. Je vois les réactions du côté du 39-21. Et nous avons notamment Aurore qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir Aurore, merci d'être sur Europe 1 ce soir.
Bonsoir.
Vous avez, je vois, une petite fille de 5 ans, donc c'est pas encore le primaire, mais dès la maternelle, eh bien, il faut adopter des attitudes de parents responsables. C'est peut-être même l'âge capital où on éduque les enfants. Vous avez entendu les propos de Florence Clément. Vous adhérez à cette manière de consommer pour la rentrée, Aurore?
Alors, j'adhère totalement, surtout sur le fait, effectivement, que, comme elle le disait, les cartables, généralement, surtout quand ils sont petits, on peut pas dire qu'ils soient usés et ils peuvent être totalement repris d'une année sur l'autre. En tous les cas, moi, c'est le cas pour ma fille. Pareil pour tout ce qui est trousse. Bon, c'est sûr qu'elle est petite encore, donc elle a pas autant
Elle ne vous met pas encore la pression pour avoir le logo qu'il faut, le club de foot qu'il faut et qui vous obligerait à acheter un nouveau sac.
Voilà. Je lui explique tous les jours. On est allé faire hier du roller. Elle voit bien qu'il y a des déchets plastiques un peu partout. Et tout ça, je lui explique. Et c'est vrai que, comme on disait, c'est une histoire d'expliquer et de leur dire, bah non, écoute, tu peux encore l'utiliser, c'est encore chouette. Donc, on peut repartir encore une année avec et puis on verra l'année prochaine. À partir du moment où ils savent qu'il y a des explications derrière, ils comprennent davantage. Et c'est vrai qu'il vaut mieux le faire tout petit.
Et le discours pour la défense de la planète, effectivement, est efficace sur les enfants. Merci beaucoup, Aurore, de nous avoir appelé ce soir au 39-21 et d'avoir témoigné. On voit bien, Madame Clément, la manière dont les parents se comportent différemment. Les messages commencent à passer. Après, on se dit, vous nous demandez d'acheter des crayons écolo, puis à côté de ça, on va voir le G7 dans quelques heures avec des chefs d'État qui, eux, éventrent la planète. Pourrait éventuellement puiser du gaz de schiste. Il n'y a pas un côté un petit peu déprimant à nous demander de faire attention à un crayon et de l'autre côté de voir ces efforts des particuliers qui ne sont pas forcément suivis?
C'est plutôt plutôt une vision d'ensemble, en fait, je pense qu'il faut adopter. C'est-à-dire que chacun a sa part. Chacun peut faire quelque chose. Et c'est pas en attendant que les gouvernements ou les décideurs politiques trouvent toutes les solutions tout seuls, en fait, qu'on fera avancer les choses. La pression aujourd'hui du public, cet engouement des citoyens pour reprendre leur vie en main, et notamment des jeunes qui ont vraiment envie de faire bouger cette société, elle est aussi importante. Il y a en ce moment une énergie qui est en train de monter de la société qu'il ne faut pas briser. En fait, tous ces gens, on les entend, on les écoute. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de produits écologiques en fait, qui sont disponibles à la vente. Pourquoi ? Parce que les citoyens les réclament et parce qu'ils sont là justement, eux, pour essayer de faire avancer les choses. Donc moi, au contraire, je dirais que si cette énergie, on continue à la faire pousser, à la faire monter en avant, c'est gagné.
Et vous êtes sur une démarche globale de vie quasiment lorsqu'on va à l'école avec les enfants. Vous nous dites qu'il vaut mieux y aller à vélo ou y aller à pied que de prendre sa voiture, évidemment. Vous dites au goûter, il vaut mieux prendre un fruit qu'un biscuit enrobé de plastique. L'ADEME, vous avez fait il y a un chiffre qui m'a frappé, ce sera ma dernière question, le gaspillage alimentaire, vous nous dites, c'est 68 centimes d'euros par repas en moyenne.
Oui, à la cantine, un enfant, en fait, aujourd'hui, est dans des situations, souvent, il ne peut pas choisir ce qu'il mange, alors que si on lui laissait la possibilité de dire ce midi, en fait, je ne veux pas de vinaigrette dans mes carottes râpées, etc., il les mangerait peut-être. En fait, il faut vraiment aussi que les parents poussent et qu'ils travaillent avec les restaurations scolaires, qu'ils aillent à la mairie, qu'ils exigent de connaître les menus, qu'ils travaillent avec l'établissement scolaire pour trouver des solutions, parfois sur le compostage des déchets qui sont issus de la restauration scolaire. En fait, les parents, ils ont aussi le droit d'exprimer des choses et quand ils sont là pour pousser les choses, parfois ils sont écoutés. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en tout cas, il y a plein d'écoles où ça fonctionne, ça marche et ils ont réduit drastiquement le gaspillage alimentaire à la cantine. Mais... Donc, il y a même un petit ouvrage qui existe sur les 1000 collèges et lycées et des écoles qui s'y sont engagées et qui ont réussi.
Merci beaucoup Florence Clément de nous avoir distillé vos conseils pour cette rentrée 2019. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'information pour le grand public au niveau de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci à Aurore qui nous a appelé et qui a témoigné. Toutes mes excuses aux autres auditeurs que je n'ai pas pu prendre à l'antenne sur ce thème très grand public. Nous sommes même au milieu des vacances à quelques semaines de la rentrée.
18h-20h, François Close sur Europe 1.
Et c'est l'heure à 18h et bientôt 19 minutes du rappel des grands titres de l'actualité du jour avec vous, Diane Chidouda. Bonsoir Diane.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Notre vigilance est maximale, déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en visite cet après-midi à Biarritz à 4 jours du G7. Plus de 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Biarritz, Bayonne et Hendaye. Un suspect encore en garde à vue après l'appel à attaquer des gendarmes lors du G7. Les 4 autres personnes ont été remises en liberté après le coup de filet dans la mouvance anarchiste. 2000 comptes fiscaux piratés par des hackers au début de l'été selon Bercy. Révélation du Canard enchaîné ce soir. Les pirates ont modifié les déclarations d'impôts ajoutant des crédits et réductions d'impôts. Mais selon Bercy, ces intrusions ont été rapidement bloquées et sont sans conséquence pour les victimes. L'Espagne envoie un navire militaire pour secourir les migrants de l'Open Arms et les amener à Palma de Mallorca, aux Baléares. Enfin, une autopsie sera pratiquée demain sur le corps de Simon Gauthier, le randonneur français récupéré hier au fond d'un ravin en Italie. Il se serait fracturé les jambes et sectionné une artère selon les premiers éléments et il aurait succombé à une hémorragie moins d'une heure plus tard.
Merci Diane Chidouda.
Et dans un instant, on va partir en Italie, François.
Eh oui, la coalition gouvernementale a vécu.
Europe 1, il est 18h22, c'est votre grand journal du soir avec vous François Claus.
Et on va prendre la direction de l'Italie car le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé il y a quelques minutes effectivement qu'il s'apprêtait à remettre sa démission. L'improbable coalition entre l'extrême droite de Salvini et le mouvement dit populiste 5 étoiles n'aura donc duré que 14 mois. Bonsoir Blandine Hugonnet.
Bonsoir François.
Vous êtes notre correspondante à Rome et très clairement Blandine, l'Italie est en train de vivre un moment politique dramatique.
Oui, tour à tour, applaudi ou hué devant plus de 300 sénateurs. Cet après-midi, Giuseppe Conte a prononcé un discours pour officialiser la fin du premier gouvernement populiste d'Italie. Une fin attendue. Il y a plus de 10 jours, Matteo Salvini a fait éclater son alliance avec le mouvement 5 étoiles. Une décision irresponsable accuse sans détour le président du Conseil qui attaque de front son ministre de l'Intérieur d'extrême droite.
Nous sommes face à une décision objectivement grave. qui peut provoquer des conséquences très importantes pour la vie politique, économique et sociale du pays. Permettez-moi de dire que le ministre de l'Intérieur a montré qu'il suivait ses intérêts personnels et ceux de son parti. Faire voter les citoyens est l'essence de la démocratie. Mais les faire voter chaque année, c'est irresponsable.
Le chef de l'exécutif, Giuseppe Conte, l'a donc annoncé. Il remet sa démission aujourd'hui au président de la République. Et c'est lui, Sergio Mattarella, qui aura le dernier mot de cette crise. Dans les prochains jours, il devra déterminer si une nouvelle majorité est possible pour gouverner l'Italie. Sinon, il faudra organiser des élections anticipées. Ça sera à l'automne prochain.
Et à l'automne prochain, et entre-temps, évidemment, le budget n'aura pas été voté. L'Italie serait soumise à des taxes plus élevé. Merci beaucoup, Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 à Rome. Nous allons désormais nous intéresser à une enquête absolument hors norme que les gendarmes de la section de recherche de Poitiers sont obligés de mener, car on a découvert de mystérieux carnets secrets d'un médecin déjà poursuivi pour des accusations de pédophilie. Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
Du service police-justice d'Europe 1. Ces carnets secrets qui appartiennent à un chirurgien actuellement en prison dans l'attente d'un procès aux assises, vraisemblablement dans les mois qui viennent, pour des accusations de viol et d'agression sur mineurs.
Et oui, c'est un premier volet du dossier qui concerne des faits susceptibles d'avoir été commis entre 1999 et 2017 sur 4 mineurs. C'est une très jeune voisine de ce médecin en Charente qui a alerté la première en racontant une exhibition sexuelle. Finalement, les examens révèlent même des soupçons de viol en perquisition. Les enquêteurs découvrent donc de très nombreux écrits qui permettent de retrouver 3 autres potentielles victimes au sein même de la famille du médecin ainsi qu'une patiente. Maître Francesca Satta, avocate de la fillette, a lu une partie de ces textes dérangeants, dit-elle.
Décrit des scènes à connotation sexuelle et fait des récits qui apparaissent un peu comme des histoires, mais dans lesquelles il va écrire ses impressions, ses ressentis, et surtout il va exposer, je dirais, toute la perversité qui est la sienne vis-à-vis de petites, en très très bas âge, en les considérant comme des proies.
L'ancien médecin de 68 ans est en détention provisoire, donc il reconnaît certains penchants. Mais d'après son avocat, maître Thibaut Kurzawa, il est impossible de savoir si les quelques 200 noms qui apparaissent dans ses écrits, parfois très anciens, sont réels et si ce sont ceux de victimes.
Il avait effectivement un comportement, on va dire, déviant sexuellement dans sa manière d'appréhender les choses. Il avait effectivement une attirance, il ne s'en cache pas aujourd'hui, pour les personnes mineures. Mais que ces faits soient décrits au conditionnel, au passé, au futur, au présent, il n'y a rien qui démontre avec exactitude, avec certitude, qu'un passage à l'acte ait effectivement eu lieu. Pour lui, ce sont des faits qui relèvent exclusivement du fantasme. Il n'y a rien qui prouve qu'il les a commis.
Et c'est toute la difficulté de cette enquête pour des gendarmes qui doivent donc contacter de nombreuses personnes qui apparaissent dans ces carnets sans avoir elles-mêmes de souvenir qu'ils aient été agressés sous anesthésie en salle de réveil ou que les faits n'aient simplement pas eu lieu.
Enquête signée Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et pour se détendre un petit peu avant de marquer une courte pause, on va revenir vers les chemins de randonnée. Oui, vous le savez, c'est une des grandes modes de l'été, mais voilà, ça pose problème. De plus en plus de randonneurs, à l'heure d'Instagram, veulent s'inventer des souvenirs sur les chemins de randonnée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent leur propre cairn. Vous savez, ces petits tas de pierres qui balisent les chemins de randonnée. Des cairns sauvages qui apparaissent, qui non seulement rendent le chemin moins clair et plus compliqué, mais qui vont même jusqu'à détruire une partie de la nature, car certaines pierres sont parfois arrachées aux falaises ou à des murs centenaires ou millénaires dans la campagne. Denis Olivry, qui est délégué du Conservatoire du Littoral en Bretagne, lance un véritable cri. Il faut qu'on arrête avec cette habitude. Il répond aux questions de Pierre Herbulot.
Ça pose problème parce que ce sont des végétations de hautes falaises en fait, qui sont en fait des écosystèmes extrêmement fragiles. Et on utilise les pierres, on arrache les pierres en fait, pour constituer les cairns. Et en arrachant les pierres, en fait, on détruit en fait, ces petites pelouses. Alors effectivement, à l'œil nu, ce n'est pas toujours visible, mais il y a de la végétation dans les interstices qui met parfois plusieurs années à s'installer et qui, justement, maintient en fait, un écosystème particulier. Par ailleurs, en déchaussant les pierres, bien entendu, on va accélérer l'érosion et on fragilise aussi les falaises et les sentiers en fait en bord de mer. On en a trouvé donc au Cap Fréhel comme à la Pointe du Raz, parfois jusqu'à une centaine d'empilements comme ça de cairns, ce qui pose vraiment un très gros problème à la fois sur la végétation et également qui fragilise en fait le site naturel.
Voilà, laisser la nature vivre et garder les cairns, ceux qui balisent les chemins, n'en construisez pas de nouveau. C'était les conseils de Didier Olivry, délégué du Conservatoire du Littoral en Bretagne, au lieu de la randonnée sur les chemins des douaniers, notamment sur la côte de Granit Rose en Bretagne.
À suivre les prévisions météo de la journée de demain, le rappel des titres et puis François, nous parlerons de l'avenir du cinéma français avec votre invité Éric Neuhoff, critique au Figaro.
Très cher cinéma français, cher dans les deux sens du terme. Valérie Darmon, vous nous disiez tout à l'heure, l'été revient jusqu'à dimanche, mais j'ai eu des témoignages quand même aujourd'hui dans le sud de la France. Ça a été une très très sale journée pluvieuse hein, dans tout l'arc des Pyrénées aux Alpes.
Eh ben oui, il y avait quand même l'Ariège qui est en vigilance orange jusqu'au milieu d'après-midi. Alors là, les
voilà,
pluies s'atténuent.
Pas trop vite.
Voilà, il tonne entre l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes. Les pluies ont cessé entre l'Ariège et le Puy-de-Dôme. C'est entre la Drôme et la Savoie que l'on a enregistré les précipitations les plus soutenues entre 15h et 16h. Et à Morzine, il est tombé plus d'un mois de pluie en deux jours. Ça, c'est fait. Demain, de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, en passant par l'Auvergne et par Rhône-Alpes, passé les nuages du matin, le soleil va prendre vite le relais. À cause du vent, le ressenti n'est pas encore forcément très chaud, avec jusqu'à 40 km/h en rafale, notamment vers le Dijonais. De la Bretagne aux Hauts-de-France, quelques nuages vous concernent également le matin. Ils ne sont présents que quelques heures pour ensuite laisser la place au soleil. Ressenti agréable confirmé. Et puis du centre au bassin parisien et sur l'Occitanie, là aussi, vous retrouvez quelques nuages dans les plaines du Midi Toulousain le matin. Mais rapidement, le soleil s'impose, le ressenti estival aussi. Le matin, les températures oscilleront entre 5 à Charleville et 21 à Nice. L'après-midi, entre 21 à Saint-Brieuc et 32 à Montpellier.
Merci Valérie Darmon.
Il est 18h31 sur Europe 1 et c'est le rappel des titres avec Diane Chénaudin.
Les coûts de la rentrée scolaire en hausse de près d'1% par rapport à l'année dernière. C'est l'estimation de Famille de France qui évalue à 195 euros les frais pour un enfant de 6e. L'allocation de rentrée scolaire est versée dès aujourd'hui à 3 millions de familles. Plus de 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Biarritz, Bayonne et Hendaye. Annonce de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur en visite cet après-midi à Biarritz, à 4 jours du G7. Un suspect encore en garde à vue après l'appel à attaquer des gendarmes lors de ce sommet. Les 4 autres personnes ont été remises en liberté après le coup de filet à Tours et Hendaye, notamment dans la mouvance anarchiste. Emmanuel Macron a quitté le fort de Brégançon ce soir pour regagner Paris. Il présidera demain le premier conseil des ministres de la rentrée. Enfin, en Italie, la démission du premier ministre Giuseppe Conte. Dans un discours devant le Sénat, il a vivement attaqué Matteo Salvini, le chef de la Ligue, accusé d'avoir fait éclater la coalition au pouvoir.
Merci Diane Chénaudin.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Et nous sommes heureux d'accueillir notre invité, Éric Neuhoff. Bonsoir Éric Neuhoff. Ah, nous avons un petit problème de liaison pour notre invité. Bonsoir Éric Neuhoff.
Bonsoir.
Ah voilà, on croyait vous avoir perdu, vous n'étiez pas au cinéma.
Non, pour une fois, non.
Nous étions ensemble la semaine dernière pour évoquer la singularité du personnage Tarantino et vous publiez dans quelques jours un pamphlet sur le cinéma français qui s'appelle « Très cher cinéma français » et on voulait évidemment vous poser quelques questions ce soir alors que le festival d'Angoulême va débuter. C'est la grande rentrée du cinéma français, le festival d'Angoulême. Éric Neuhoff, pourquoi vous en voulez donc au cinéma français ?
Bah parce que j'ai un métier de spectateur professionnel et je vois 200 films français par an sur les 250 qui sortent chaque année. Et j'avoue que j'en ai eu un peu assez, que j'ai piqué cette colère pour dire que ça suffisait, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce système.
Alors, on va voir avec vous les raisons que vous développez, mais il y a quand même un fait qui est là. La France est quasiment le seul pays européen à pouvoir préserver une production made in France de cinéma. Où est le cinéma italien? Où est le cinéma allemand? Où est le cinéma anglais aujourd'hui? Et donc ça, c'est une forme de richesse. Et dans ce lot des 200 films que vous n'aimez pas, il y a bien quelques pépites malgré tout.
Vous pouvez m'en citer cette année.
Kechiche, Salvadori, Les Perdrix, je suis allé voir il y a quelques jours, signé Erwan Leduc.
Oui, mais Perdrix, c'est un très joli premier film, mais qui va passer inaperçu, noyé dans le flot. On est dans un pays où, en temps normal, il y a 15 ou 20 films qui sortent chaque semaine. C'est beaucoup trop. Je pense qu'il faudrait pratiquement décourager la création au lieu d'aider la médiocrité et de faire des films où personne ne prend le moindre risque, ni le producteur, ni les acteurs, ni le réalisateur. Donc la qualité ne peut pas être au rendez-vous, parce que le cinéma, c'est un métier de fous, de passionnés, de gens qui sont prêts à miser leur chemise sur un projet, alors que là, c'est carrément un travail de fonctionnaire.
Un travail de fonctionnaire, et pourtant je citais, là on pourrait citer aussi Valérie Donzelli, on pourrait citer les très beaux films de Justine Triet, la Sibylle qu'on a vue à Cannes cette année notamment, il y a quand même là un made in France qu'il faut défendre. Quand vous venez dire que ce sont des fonctionnaires dans leur fauteuil, vous voulez quoi, qu'on ait que des blockbusters américains?
Ah non, surtout pas, mais je voudrais qu'il y ait, au lieu de 250 films moyens, qu'il y ait 20 films hors du commun.
Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à ce système d'une meilleure sélection? C'est un problème quoi, de production? C'est un problème d'écriture? C'est un problème de moyens?
Un problème d'écriture, parce que les films sont quand même très très mal écrits. Là, les dialogues des films français sonnent horriblement faux. Personne ne parle comme ça, ni au cinéma, ni dans la vie. Et il faudrait peut-être faire comme la Nouvelle Vague. C'était des copains d'une même génération qui étaient fous de cinéma et même de cinéma américain, et qui s'étaient dit, en bricolant, on va tourner nos films dans la rue, sans studio, sans projecteur, et en étant pratiquement pas payés. Ça a donné À bout de souffle et Les premiers Truffaut et toute la suite. Et je pense que cette notion de risque est essentielle en matière d'art, que le confort est complètement antinomique avec le talent et même le génie.
Oui, et là, par exemple, si on prend le Festival d'Angoulême, hein, qui marque la rentrée du cinéma français, Éric Noyoff, on va avoir le film d'Yvan Attal, une adaptation du roman de John Fante, Mon chien stupide. Bien, ouais. On va avoir Depardieu, on va avoir... Il y a quand même une vitalité du cinéma français qui est là et qui est réelle.
Non, une vitalité, je ne sais pas. Le cinéma français est vivant. Mais c'est quand même un vivant qui n'est pas très bien portant et qui est incapable de courir le 100 mètres et qui se traîne un petit peu en déambulateur, là. Il y a plein de petits films, d'assez bons petits films, mais il n'y a pas les films dont on parlait dans toutes les conversations, dans tous les dîners, dans les années 70. Le langage du cinéma était universel et tous les gens étaient en train de parler de La Grande Bouffe, du Dernier Tango, de César et Rosalie. Aujourd'hui, à part le Tarantino dont tout le monde parle depuis la semaine dernière, il y a très très peu de cas de films qui fassent l'événement et qui intéressent les gens.
Oui, il y a des comédies qui trouvent un petit peu leur public, des comédies, on va dire, je pense les films avec Virginie Efira, par exemple, qui ont bien marché. Alors vos propos suscitent pas mal de réactions, Éric Noyoff, au Standard d'Europe 1, au 39-21. Nous avons Thierry, notamment, qui nous appelle. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1 ce soir. Vous allez beaucoup au cinéma, vous, Thierry ?
Non, pas tant que ça, non. J'y vais pas parce que, par manque de temps, et puis, je trouve, il n'y a rien qui m'attire pour l'instant dans le cinéma.
Ni français, ni américain ?
Bon, américain, c'est un peu toujours un peu la même scénique. C'est des gros effets, des gros budgets, donc des films. Et puis français, honnêtement, je peux le regarder sur ma télé parce que l'écran de cinéma va pas m'apporter une grande profondeur sur le film en lui-même. Un film, à la limite, si je vais au cinéma, j'irai voir le film de le documentaire Thomas Pesquet pour les paysages et tout, parce que ça mérite un grand écran. Après le reste,
c'est vrai. Et donc vous êtes client de Netflix et plutôt de la télé. Vous vous dites que le cinéma ne m'offre plus la création que je voudrais y trouver.
Exactement, ouais. Et c'est vrai que votre interlocuteur précédent avait
Monsieur Noyoff.
Je partage, oui. Ouais, je partage son avis sur le volume de films. On fait beaucoup de films. Puis à la sortie, il y en a un tous les 4-5 ans qui sort du lot, parce que je pense à Intouchable, je pense à Bienvenue chez les Ch'tis. À part ces deux grands films, on va rien sortir des films français. Ils passent un an après, ils passent à la télé, un dimanche soir, ça se regarde en famille et puis. Puis voilà, quoi, ça va pas plus loin. On n'a pas des super grandes productions, à part Luc Besson qui fait des très grosses productions.
Oui, dont le dernier film a été éreinté par la critique. Je dois dire que je ne l'ai pas vu, moi, Anna. Et vous, votre dernière, votre dernière grande émotion au cinéma, Thierry ?
Ma dernière grande émotion ? Wow.
Vous allez me dire Star Wars ?
Eh ben, écoutez, ouais, si on parle d'attention de film, de cinéma, c'est-à-dire qu'on doit voir sur un grand écran,
ouais,
pour
absolument.
Le son, pour les effets. Après, voir une comédie française, il y a des très bons films, des belles histoires, des très grands films d'auteur.
Il y aura le film notamment de Toledano et Nakache, les auteurs d'Intouchables qu'on a vu à Cannes en clôture et qui va sortir bientôt. Merci Thierry de nous avoir apporté votre point de vue. Eric Neuhoff, très cher, trop cher cinéma français, mais il faut quand même sauver la création française quelque part.
Ah oui, bah, il y aura toujours des gens pour tourner des films, hein. C'est un besoin vital, hein. Et puis le public a envie qu'on lui raconte des histoires, ça je suis pas inquiet de ce côté-là, mais ce qui me désole un peu, d'ailleurs je vois que votre auditeur
oui, elle est dans votre sens, oui, absolument.
Non mais ça me rend triste, hein, ça, c'est vraiment presque un chagrin d'amour de voir ce qui se passe.
Oui, parce que vous êtes un grand fan de la Nouvelle Vague, vous adorez sauter,
il y a
Téchiné encore là.
C'est quand même très médiocre, Téchiné. Non, il y en a un qui est très intéressant, c'est Arnaud Desplechin. Je trouve que vraiment, le cinéma a été inventé pour lui. Il pourrait pas s'exprimer d'une autre façon et c'est vraiment très très beau ce qu'il fait.
D'ailleurs, sort le prochain Desplechin, hein, mercredi, Roubaix et ma ville, un roman noir adapté au cinéma. Il se lance dans un nouveau genre. Bah écoutez, merci beaucoup Eric Noya, vous partez sur Angoulême, vous êtes déjà Angoulême peut-être?
Bah non, je risque d'être interdit de séjour là-bas.
Bah oui, c'est pour ça que je voulais vous demander, est-ce que vous avez pris votre gilet pare-balles avant d'y aller? Vous irez à Deauville voir célébrer le cinéma américain. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans vos réflexions. On peut lire très cher cinéma français, ça paraît dans quelques jours, c'est Albin Michel et Eric Noyov, c'est la plume du cinéma dans le journal Le Figaro.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec notre rubrique Rétro d'Actu, François.
On va partir en Algérie 6 mois, jour pour jour, après la première manifestation. Où en est-on? Dans l'impasse.
Europe 1.
Dans la foule des gilets jaunes, il y a Thierry, un ouvrier. Il appelle les gens à manifester. Il parle d'une petite révolution.
He's not gonna do testing of rockets and nuclear.
Le but de Manchester United.
Europe 1. Rétro d'actu.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
François Clos.
Comme tous les soirs, le coup d'œil dans le rétro de l'actu, profiter de ce mois d'août pour revenir sur les grands événements de l'année, revenir sur les grands reportages que vous avez peut-être entendus à l'époque sur Europe 1 et s'interroger sur que s'est-il passé depuis. Direction aujourd'hui l'Algérie, nous sommes le mardi 26 mars, l'impensable vient finalement de se produire à Alger. Après 20 ans de pouvoir, le président Bouteflika, qui voulait briguer un nouveau mandat, bien qu'aphasique, bien que cloué sur sa chaise roulante depuis de longues années, eh bien le président Bouteflika est ce jour-là lâché par l'armée. En reportage dans les rues d'Alger, Mathieu Bock.
Ce sont de timides coups de klaxon qui accueillent la nouvelle dans les rues d'Alger. Beaucoup d'habitants restent méfiants. La déclaration du chef d'état-major Gaïd Salah est vue comme une avancée, mais pas comme une victoire.
On espère, du fond du cœur, on espère que c'est sincère ce qu'ils sont en train de faire les militaires. Parce que, après tout, même les militaires, s'il n'y avait pas la sortie de tout ce peuple et tous ces jeunes, ils pouvaient très bien appliquer cette loi au quatrième mandat, parce que ça fait 7 ans qu'on n'entend pas le président parler.
C'est un bon début. Après, il faut que les promesses soient tenues. Il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air juste pour calmer le peuple, pour avoir 2 fois 45 jours de répit.
Si l'article 102 de la Constitution est appliqué, des élections présidentielles pourraient se tenir avant le début de l'été. Et pour que le processus se mette réellement en place, les manifestants ne comptent pas relâcher la pression et appellent donc à de nouveaux rassemblements à travers tout le pays dans 2 jours, pour le 6e vendredi d'affilée. Alger, Mathieu Bock, Europe 1.
Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour François.
On vous retrouve donc aujourd'hui, ce 26 mars à Alger marque un véritable tournant, puisque l'armée lâche son candidat. On sent la méfiance dans votre reportage des manifestants qui malgré tout, tous les vendredis, se mobilisant dans le calme et avec une force tranquille et irrésistible, ont gagné ce jour-là, Mathieu, une première étape.
Oui, parce que personne n'imaginait que l'armée puisse lâcher Bouteflika. Quelques jours encore auparavant, l'armée disait non, il n'y a qu'un seul candidat, Bouteflika, c'est l'avenir de l'Algérie. Et puis une semaine plus tard, le 2 avril, Bouteflika a démissionné, à la surprise presque générale, c'est-à-dire qu'on sentait que c'était dans le sens de l'histoire, et on a vu Bouteflika affaibli sur un fauteuil, en silence, signer sa démission. Enfin, c'était des images assez fortes, surtout que les Algériens n'avaient pas vu leur président depuis plusieurs mois à la télé.
ce président qui a incarné l'histoire de l'Algérie, la lutte pour l'indépendance évidemment, mais aussi le positionnement dans les années 70 de l'Algérie. Il était le leader de ce qu'on appelait les non-alignés à l'époque aux Nations Unies. C'est toute cette histoire qu'il incarnait, et c'est toute cette histoire, Mathieu, que la jeunesse algérienne veut aujourd'hui, non pas oublier, mais veut tourner la page pour une autre Algérie, un mouvement de jeunesse qui a gagné par la force dans la rue, par sa responsabilité. Je vous propose d'écouter ce témoignage qui résume ce qu'a été ce mouvement absolument inédit dans l'histoire de l'Algérie.
On s'en fout un petit peu de la prière du vendredi, c'est la marche du vendredi maintenant qui compte. On se demande même maintenant quoi faire si toutes les choses sont réglées. On a le vendredi après-midi, on se retrouve tous, c'est génial, c'est la liesse populaire, et tout le monde s'est trouvé un ennemi commun. Et là, on se retrouve tous dehors, industriels, riches, clochards, étudiants, médecins, juges, avocats, agents de la protection civique, c'est génial ça.
Quand on voit les jeunes dehors qui s'approchent pas des filles, alors que habituellement c'est les insultes, c'est pourquoi tu fais ça. Mais la dernière fois, pour l'anecdote, j'étais en train de fumer en plein air, alors qu'à Alger, une fille qui fume, c'est forcément une péripatéticienne, pour pas dire un autre mot. Et là, les jeunes, il y a un gars, il lui a dit « Silmiya, Silmiya ». On va pas leur dire, on va pas les faire chier. Pacifique, pacifique, on va rien leur dire. C'est vraiment épatant pour eux.
Ces témoignages que vous avez recueillis, Mathieu Bock, dans les rues d'Alger, témoignent de ce qu'a été ce mouvement. On s'était beaucoup interrogé à l'époque, pourquoi est-ce que la Tunisie, pourquoi est-ce que l'Égypte, que la Syrie sont en train de basculer, pourquoi l'Algérie, qui avait toutes les caractéristiques pour basculer, ne basculait pas dans un mouvement de printemps. On se souvient du spectre, évidemment, de la guerre civile qui a marqué les Algériens pendant 10 ans, avec plus de 100 000 morts. Et là, avec une forme de très grande responsabilité, la jeunesse a gagné dans la rue.
Oui, parce que le spectre du retour aux islamistes qui a pu être agité quand Bouteflika est arrivé au pouvoir, bah cette jeunesse veut s'en affranchir, ne veut pas être redevable de ça. On dit non, 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 on peut faire encore autre chose. C'est pas soit l'armée, soit les islamistes. Il peut y avoir aussi une voie démocratique, une voie moderne. La jeunesse, c'est nous, on est dans la rue. Et beaucoup de journalistes français et algériens se posaient la question en disant, bah effectivement, vous avez pas peur que les islamistes
récupère la mise, en quelque sorte.
Récupère la mise, comme ça peut être le cas. Et on dit non, pas du tout. C'est même pas une question, c'est même pas un sujet. Et on attendait de voir un peu. Et là, on va arriver au 25e vendredi d'affilée de mobilisation. Et ce thème islamiste n'est toujours pas d'actualité pour les manifestants.
Et ce qui est frappant, c'est cette détermination qui émane des rues d'Alger, sans qu'il y ait de vraies solutions politiques qui se profile, mais cette détermination, elle est là à fleur de peau, comme en témoigne ce reportage et cette interview que vous avez réalisée, Mathieu, dans les rues d'Alger.
Je pense que le peuple algérien ne va pas faire marche arrière. Ils vont tomber un derrière un. Hein. Le peuple algérien ne va pas s'arrêter là. Hein.
Nous, ce qu'on veut, c'est que Bouteflika sorte, et on dirait que c'est ce qui est en train de se passer, donc on espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Moi, personnellement, je reviendrai chaque vendredi jusqu'à ce que toute son équipe sorte. Parce que si c'est pour nous dire que lui sort, mais que son équipe reste, ça sert à rien.
Alors voilà, Mathieu, la détermination, elle est là. La solution politique, elle, n'est toujours pas là en Algérie.
Non, là, on est dans un statu quo, c'est-à-dire que là, on est dans un vrai rapport de force entre la rue. La mobilisation, objectivement, baisse un peu. Mais alors, c'est l'été, il fait vraiment très très chaud, mais même pendant le ramadan, il y avait une mobilisation très forte, le ramadan qui était au mois de juin. La rue continue à se mobiliser, longtemps après, on en est donc au 25e vendredi d'affilée. L'armée ne lâche pas, le pouvoir a créé une sorte d'entité, une instance de dialogue national, l'armée l'a rejetée, mais Ben Salah, le président par intérim, la maintient au pouvoir, elle devrait rentrer.
On a l'impression que le pouvoir n'a pas de solution, tout simplement.
Non, parce qu'en plus, il y a presque deux pouvoirs. Il y a le pouvoir politique officiel, le président par intérim Ben Salah, et il y a le pouvoir un peu réel, c'est-à-dire Gaïd Salah, le chef d'état-major. Ces deux-là ne s'entendent pas, ces deux-là n'ont pas vraiment les mêmes intérêts. Donc pour l'instant, le rapport est clairement entre l'armée, Gaïd Salah, et entre la rue, qui s'oppose directement à lui et qui ne veut pas lâcher et qui refuse toute élection. Le processus de transition devait s'arrêter le 9 juillet, la constitution qui prévoyait ça, 90 jours après l'élection annulée de facto au printemps. Là, on est un peu en sursis, c'est un peu un régime en sursis qui continue. C'est pas vraiment écrit dans la constitution ce qui est en train de se passer.
Et cela laisse planer beaucoup d'incertitudes. Et pourtant, le vendredi 19 juillet dernier, comme un symbole de ce mouvement parti à la fin de l'hiver, voilà le 19 juillet, l'Algérie, 29 ans après, qui se retrouve en football, champion d'Afrique des Nations, dans une liesse absolument incroyable. l'une des stars de cette équipe, Riyad Mahrez, après cette victoire contre le Sénégal en finale, explique pourquoi l'Algérie a gagné.
Tout ça, c'est pour le peuple, on l'a toujours dit. Si on gagne, c'est pour le peuple, pour les familles. Donc, voilà, tout ça pour le peuple. Et Inch'Allah, on est pressé de rentrer à Alger.
Voilà, la finale avait lieu en Égypte. Ils reviendront triomphalement, ces joueurs algériens, en Algérie, comme un symbole de cette révolte. Une révolte, on le sent, Mathieu, n'est pas terminée, loin s'en faut, et qui est pleine d'incertitudes.
Oui, les mobilisations vont continuer vendredi après vendredi, semaine après semaine. L'idée d'une présidentielle à l'automne plane toujours un peu, c'est ce à quoi on doit s'attendre, mais c'est pas du tout sûr que les manifestants, le IRAK, comme on l'appelle, ce mouvement spontané, acceptent cette idée de la présidentielle. Donc on regarde semaine après semaine, presque jour par jour,
ce qui se passe en Algérie
et comment ça évolue.
Et c'est pourquoi il était intéressant de faire cette rétro d'actu. Merci Mathieu Bock, et on va suivre évidemment sur Europe 1 les futurs soubresauts de l'Algérie à venir. C'était notre rétro d'actu du jour.
18h-20h, François Close sur Europe 1.
Et à 18h51, de l'actu d'hier à celle d'aujourd'hui, Diane Chélouda.
Notre vigilance est maximale, déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en visite cet après-midi à Biarritz à 4 jours du G7. Plus de 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Biarritz, Bayonne et Hendaye. Un suspect encore en garde à vue à Melun après l'appel à attaquer des gendarmes lors du G7. Les 4 autres personnes ont été remises en liberté après le coup de filet dans la mouvance anarchiste. La rentrée universitaire, les bourses vont être revalorisées d'1% et les frais d'inscription gelés pour la rentrée. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Enseignement supérieur. La fin du premier gouvernement populiste en Italie avec la démission du Premier ministre Giuseppe Conte. Devant le Sénat, il a vivement attaqué Matteo Salvini, le chef de la Ligue, accusé d'avoir fait éclater la coalition au pouvoir. L'Espagne envoie un navire militaire pour récupérer les migrants de l'Open Arms et les amener à Palma de Mallorca aux Baléares. Enfin, la récolte sera plus faible que prévu dans le Beaujolais cette année, conséquence des violents orages de grêle qui ont traversé les vignobles avant-hier soir. Les espoirs de récolte sont réduits de 20 à 50%.
Merci Diane Chélouda.
Restez avec nous à suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, la rubrique Fallait oser, et puis place à l'humour avec le meilleur de Nicolas Canteloup. Europe 1, il est 18h54 et c'est l'heure de votre chronique Fallait oser.
Oui, parce que beaucoup en rêvent, mais certains le font. Changer de vie, c'est le cas de Fanny. Elle est passée de son guichet de la SNCF, après plus de 10 ans dans ce guichet, à ce qu'elle rêvait de faire. Témoignage.
Fallait oser.
Je m'y retrouvais plus. C'était plus moi, c'était pas moi. Et voilà. Il fallait que je me trouve une solution. J'ai d'abord commencé par faire un bilan de compétences. Et en fait, c'est surtout le coaching qui m'a énormément aidée à trouver en fait vraiment la voie dans laquelle il fallait que je me lance. Si vous voulez, la déco, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de moi. Et ce coaching m'a permis en fait de me l'autoriser, de me dire oui, c'est possible d'en vivre, c'est possible d'y aller, quoi.
Elle s'est donc lancée, Fanny, de son guichet de la SNCF vers une école d'art appliquée à Strasbourg. Aujourd'hui, elle conseille des particuliers, des entreprises sur le choix des mobiliers, des coloris, des matières pour aménager appartements ou bureaux.
On le sent, une fois qu'on est à sa place, les portes elles s'ouvrent et toutes les barrières elles se lèvent. Mon entreprise est créée depuis le mois de janvier. Et puis pour une première année, je suis très contente, ouais. J'ai plus cette boule au ventre avant d'aller travailler. J'ai du mal à m'arrêter, en fait. Je m'arrête jamais, en fait. Je pense déco, je pense à mon entreprise, je dors déco, je mange déco. Il faut peut-être d'ailleurs un peu que je me calme aussi, mais voilà, c'est tout cette maintenant ça fait mon métier fait vraiment partie de moi, de ma vie, de ma personnalité. C'est toute ma dynamique personnelle qui a changé par rapport à avant.
Avec un mot d'ordre, transformons ensemble le banal et l'ordinaire en beau non conventionnel. Les affaires de Fanny à Strasbourg marchent bien. Vous pouvez d'ailleurs voir ses réalisations sur le site tout collé, studiofandedeco.com. Studiofandedeco.com, tout collé. Témoignage recueilli par Anne Le Gall. Allez, c'est l'heure de notre sourire, de notre rire, pour terminer cette première heure du grand journal du soir. Et le rire, c'est Nicolas Canteloup pour le best-of avec Julie.
Jean-Luc Mélenchon a posté une nouvelle vidéo sur Facebook dans laquelle il affirme qu'il n'est pas l'ennemi des journalistes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Ouais, ouais, ouais,
on va faire l'appel.
Ouais, bonjour,
hein.
Bonjour. Oui, bonjour à vous les journalistes. Ouais,
bonjour,
ouais, ouais.
Bonjour.
Oui, oui, bonjour. J'ai déjà dit bonjour.
Ah,
donc je vous aime bien. Voilà.
Ah,
je suis votre ami. Il faut que vous mettiez ça dans la tête.
Trop aimable.
C'est clair.
Ouais,
faut vous l'expliquer en quelle langue?
D'amis. Bande d'amis, hein, c'est pas mal. Bon, on vous sent moyennement convaincu quand même, hein, Jean-Luc Mélenchon.
Mais si, je vous aime bien. Je viens de le dire, arrêtez de m'emmerder. Je viens ici, je suis une bulle de tendresse, je suis un grand bol d'amour. Et vous commencez à me péter les gros lots avec vos insinuations à deux balles. Je vous aime. C'est bon? C'est compris, oui ou merde? Faut qu'on fasse un pique-nique là-dessus ou quoi?
Bon, bah écoutez, on vous aime aussi, hein. Alors revenons sur le fond de l'affaire qui vous concerne. Sophia Chikirou aurait facturé des prestations.
Mais tu te tais. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Et voilà, mais vous cherchez les ennuis, vous les journalistes, vous aimez ça. Je viens en paix, dans le plus grand calme. J'ai bouffé, pour tout vous dire, 3 boîtes de Xanax avant de venir voir vos tronches. Hein. Et vous, vous me crachez dans la main que je suis en train de vous tendre.
Non, vous crachez pas dans la main. Enfin, on voudrait simplement parler du fond de l'affaire, voilà.
Mais c'est pareil. Tu sais que ça m'énerve, alors arrête. Je sais que ma personne est sacrée.
Oui, ben on a compris, putain.
Mets-toi ça dans la tête.
Allez, ça va. Ben, c'est bon, on va vous laisser, je crois. Hein. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être passé.
Ah, c'est un grand, hein, dans la galaxie des personnages de Canteloup, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera évidemment dans la nouvelle grille d'Europe 1 dès lundi prochain. Bonheur de l'entendre, le best-of.
Super. Alors, à suivre sur Europe 1, les prévisions météo de Valérie Darmon et puis votre invité après le journal de 19h, François.
Qui sera présenté par Thibault Lambert, qui vient d'entrer dans ce studio. Et bien, notre invité, restez bien à l'écoute. Nous serons avec Olivier Rouillet, le seul joueur français dans les années 70 qui a fait son coming out, qui a publié, rendu public son homosexualité. Il n'en peut plus, Olivier Rouillet, de cette ambiance homophobe qui tourne autour du football. Il témoignait dans l'équipe ce matin, il témoignera sur Europe 1 ce soir. Valérie Darmon, on dit l'été, là, jusqu'à dimanche, mais quand même, attention, le matin, c'est un petit peu automnal, hein.
Oui, c'est ça. Les températures remontent qu'à partir de jeudi, demain matin, il fera toujours très frais. Hein. C'est même la matinée demain la plus froide de cette semaine. Les températures descendront jusqu'à 7-8 de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Et cette fraîcheur s'atténuera progressivement en descendant vers le sud avec un peu de douceur vers la Méditerranée et 16 à 24 degrés. Dans l'après-midi, les maximales seront entre 21 à Saint-Brieuc et 32 à Montpellier. Côté ciel, on a un vaste anticyclone qui s'étend de l'est des Açores à l'Allemagne en passant par la France. Il repousse le temps instable rageux de ces derniers jours vers l'Ukraine et la Pologne. Retour du beau temps confirmé. Il était prévu. Donc voilà, et il durera jusqu'à dimanche.
Merci Valérie.
Et il est 19h sur Europe 1. Et c'est donc l'heure du journal, présenté par Thibault Lambert. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Johanna, bonsoir à tous. Quand les dirigeants des 7 pays les plus puissants de la planète se réunissent au même endroit, ça donne un dispositif de sécurité complètement hors norme. À 4 jours du G7, tous les moyens sont mobilisés à Biarritz, armés de terre, de l'air et la marine nationale, accompagnés d'un renfort policier exceptionnel, détaillé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place aujourd'hui.
Nous avons déployé des moyens majeurs, nécessaires, adaptés. Ainsi, le dispositif de sécurité mobilisera 13 200 policiers et gendarmes. Ils seront épaulés par les forces militaires qui assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Et je veux à nouveau vous dire combien elles sont exceptionnelles. Enfin, nous veillons à ce que les secours soient assurés, les professionnels de santé disponibles pendant toute la durée du sommet. Ainsi, plus de 400 sapeurs-pompiers, des équipements nationaux de la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises, 13 équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation, ainsi que les associations de sécurité civile seront mobilisées.
Le ministre de l'Intérieur au micro européen de Jean-Jacques Herry. Et dans ce contexte, les autorités prennent chaque menace très au sérieux. 5 personnes qui projetaient sur les réseaux sociaux de s'attaquer aux forces de l'ordre pendant le sommet ont été arrêtées aujourd'hui. Une seule est toujours en garde à vue ce soir. Dans le Var, les vacanciers et les habitants de Bormes-les-Mimosas ne pourront plus croiser le couple présidentiel. Emmanuel Macron rentre à l'Élysée en vue du premier conseil des ministres demain. C'est donc raté pour Laurent Bondil qui gère le restaurant La Cabasse à Cabasson en face de l'entrée du fort de Brigançon. Il espérait servir le président cet été.
Il est parti, c'est dommage qu'il ne soit pas arrêté à un moment, mais bon, on a aperçu les voitures, on a aperçu des défilés de voitures. On aurait bien aimé au moins lui proposer un verre de rosé, boire un coup tranquillement. Mais après, bon, je pense que c'est normal, il a besoin de vacances lui aussi, il a besoin de souffler. Je pense qu'il a eu une année compliquée et apparemment la rentrée va l'être aussi. Et c'est plein de bonnes expériences entre les vacances de Monsieur Macron et de son épouse, entre la venue de Vladimir Poutine. Non, c'est des nouvelles expériences qui sont bonnes à vivre, et voilà. Il y a une effervescence qui s'installe quand le président est là, parce que les gens ont envie de voir le fort, voir le président. Mais bon, ils ne viennent pas que pour ça. Comme c'est juillet-août, ils viennent pour la plage, le site, le soleil, le pastis, la dorade. On dit à l'année prochaine.
Propos recueillis par Frédéric Michel. Voilà pour la rentrée politique, mais l'année scolaire, elle aussi, approche à grands pas. Les allocations de rentrée de la CAF sont versées cette semaine. Aide destinée à 3 millions de foyers modestes pour les fournitures, la papeterie ou encore l'habillement de leurs enfants de 6 à 18 ans. Un coup de pouce généreux pour les jeunes élèves qui devient insuffisant dans l'enseignement secondaire. L'association Famille de France demande une meilleure répartition. Jamy Belkiri, responsable du pôle consommation, au micro de Johanna Chabas.
Pour les primaires, on donne à peu près 300 et quelques euros. C'est important, même les familles nous disent qu'avec 150 euros, ça leur suffit. Pour les collégiens, c'est équitable. Par contre, pour les lycéens, c'est pas du tout équitable, parce que 402 euros, normalement, si on va au plus près de la réalité des achats, hein, disons, ça varie à peu près entre 700 et 800 euros. Donc, vous voyez, c'est le double de ce que l'ARS donne. Parce que déjà, dans les lycées professionnels, pour les bouchers, ils sont obligés d'acheter leur valise complète. Hein. Dans l'esthétique, pareil. Dans la coiffure, pareil. Ils ont quand même des produits qui coûtent cher, même s'ils ont une aide, quelquefois, du département. Mais c'est infime par rapport au coût réel des bacs pro. On ne demande pas une augmentation comme ça. On dit moins pour les primaires et entre 700 et 800 pour les lycéens. Ça serait beaucoup plus réel pour eux.
Jamy Belkiri de l'association Famille de France qui vient de publier son estimation annuelle du coût de la rentrée en 6e. Si votre enfant entre au collège, il va falloir payer 195,58 €, soit une hausse de presque 1%. En Italie, le divorce définitivement prononcé entre les deux forces de la coalition au pouvoir après 14 mois de cohabitation. Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé sa démission devant les sénateurs. Discours très offensif à l'égard du ministre de l'Intérieur et du chef de la Ligue, Matteo Salvini, qui appelle à de nouvelles élections pour gouverner sans les populistes du mouvement 5 étoiles. Salvini, justement, qui continue à fermer les ports aux navires humanitaires. L'Open Arms, bloqué au large de l'île de Lampedusa, attend l'arrivée d'un bateau militaire envoyé par l'Espagne pour récupérer la centaine de migrants à bord. Une quinzaine se sont jetés à l'eau pour tenter de regagner l'île à la nage. La victoire en demi-teinte des céréaliers français. D'un côté, les producteurs s'attendent à une moisson 2019 exceptionnelle. 38 millions de tonnes de blé tendre, soit l'une des meilleures récoltes depuis plusieurs années. Mais de l'autre, la concurrence mondiale, notamment de la Russie, fait chuter les prix. La tonne a perdu 10 euros en seulement quelques jours. Écoutez le secrétaire général de l'Association globale des producteurs de blé, Philippe Uzel.
Je dirais qu'on respire parce que avec les épisodes de canicule qu'on a eu fin juin, on s'attendait à ce que la moisson soit pas si bonne que ça. Puis finalement, on est sur un bon cru. Tant en rendement, on pense pouvoir en blé tendre produire autour de 39 millions de tonnes, donc c'est très bien. Et aussi en qualité. Notre qualité correspond tout à fait à ce que les clients divers et variés attendent, qu'ils soient français, européens ou dans les pays tiers. La difficulté de l'année, je dirais, ou le paradoxe de l'année, c'est qu'on a bien travaillé, on a fait une bonne moisson, un bon rendement, une bonne qualité, mais la valorisation n'est pas de rendez-vous. Et pour beaucoup de céréaliers, les prix actuels ne couvrent pas les coûts de production. Les niveaux de prix, il faudrait qu'ils se redressent pour que les agriculteurs puissent, en fin d'année, dégager un revenu qui leur permette d'envisager l'avenir sereinement.
Philippe Euzel qui répondait à Aurélien Fleureau. On passe au sport avec une grande première dans le monde du tennis. Un joueur sourd de naissance a remporté un match sur le prestigieux circuit ATP. C'était au tournoi de Winston-Salem aux États-Unis il y a quelques heures. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Thibault. Bonsoir.
Il s'appelle Duck Ely et l'histoire de ce Sud-Coréen est forcément extraordinaire.
Oui, le circuit professionnel du tennis se souviendra forcément de ce lundi 19 août 2019 quand un Sud-Coréen totalement sourd a battu pour son premier match à ce niveau un joueur bien mieux classé que lui, lui, le Suisse Laaksonen, 120e mondial et sans contestation possible, 7-6-6-1, score final. Dans un sport où les bruits de balles, de raquettes, du public aussi, sont des repères fondamentaux, la performance de Doug Healey, 212e à l'ATP, laisse Pantois les plus grands champions. Andy Murray parle d'un énorme effort, d'autres de compétences folles et de talents immenses. L'entraîneur emblématique de Yannick Noah et de l'équipe de France de Coupe Davis, Patrice Agelauer, ne cache pas lui non plus son admiration.
Moi, je suis vraiment content de voir que vraiment des gens qui ont des handicaps arrivent quand même à exister dans le haut niveau. Bon, ça, c'est vraiment extraordinaire. Sur le plan mental, ils arrivent à développer des qualités qui les rendent peut-être plus forts, justement, et que leur handicap en font des personnes qui sont vraiment, qui deviennent admirables. On peut être qu'admiratif hein, devant des gens comme ça.
Voilà, Patrice Agelauer, joint par Charlotte Moreno. Avec sa surdité, diagnostiquée à l'âge de 2 ans, Doug Healey a rapidement compris que le tennis était, selon ses propres mots, sa seule chance de survie dans la société. Sur un court, il n'entend rien, pas même l'arbitre, ce qui occasionne parfois des scènes cocasses sur des points litigieux, d'autant qu'il ne parle pas la langue des signes. Mais cela ne l'a pas empêché d'être numéro 3 mondial chez les juniors, ni de remporter 8 tournois Challenger, la deuxième division du tennis. « Je veux devenir le meilleur du monde », assure-t-il, gonflé à bloc, à qui veut bien l'entendre. Prochain test cette nuit face au Polonais Urkaz, 40e mondial, ça s'annonce corsé.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Valérie Darmon, le retour du beau temps sur l'ensemble de nos plages à l'image du ciel.
Et oui, effectivement, grand beau temps demain retrouvé sur les côtes de la Manche. Les températures ne sont pas encore en hausse, mais ça ne va pas tarder. Ce sera le cas jeudi, une moyenne de 20 à 22 degrés de Brest jusqu'à Dunkerque et une eau dans les mêmes températures entre 19 et 20 degrés. Très beau temps sur l'ensemble de l'arc atlantique avec cette fois une remontée des températures, déjà 27 degrés annoncés à Lacanau, 26 à Mimizan, 24 à La Baule, annoncé en calme entre 18 et 22 degrés. Beau temps retrouvé également, quoique entrecoupé de passages nuageux pour les éclaircies, entre le Canet et Nice, moyenne sur les plages 30 degrés, dans l'eau 22 à 26 degrés, 26 pour les Alpes-Maritimes.
Merci Valérie Darmon.
Et dans un instant, François, on reviendra sur les débordements dans les stades de football avec votre invité Olivier Rouito. Europe 1, il est 19h11 et c'est l'heure de l'invité du Grand Journal du soir.
Bonsoir Olivier Rouillet.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Les gens de ma génération ont adoré le joueur, le compagnon de Michel Platini, l'ailier virevoltant que vous étiez. Les amateurs de foot d'aujourd'hui adorent vos commentaires, notamment sur la chaîne L'Équipe. Mais le sujet ce soir, Olivier Rouillet, est grave. Vous avez pris la parole dans le quotidien L'Équipe ce matin pour exprimer votre ras-le-bol par rapport à cette ambiance homophobe qui tourne autour du football. Vous avez été l'un des rares en France à rendre public votre homosexualité très tôt, dans les années 80. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Olivier Rouillet, que vous ne supportez plus ces cris qui étaient devenus une habitude depuis plus de 20 ans dans les stades?
Eh bien voilà, vous venez de le dire, c'est l'habitude. Je ne supporte plus l'habitude, je ne supporte plus le fait qu'on puisse dire que c'est du folklore, que dans un stade de foot, on puisse se permettre tout et n'importe quoi. Je ne le supporte plus, je l'ai supporté pendant 20 ans. À mon époque, quand j'étais joueur, il n'y avait pas ce genre de chant dans les tribunes. Et puis, bah, dans le système, on l'accepte. Et puis, tout d'un coup, un jour, on se réveille et on dit, il y en a marre. Stop. C'est plus possible, en 2019, dans un stade de foot, d'entendre ce qu'on a entendu, notamment à Nancy, vendredi soir.
Oui, parce qu'on a assisté à un événement inédit dans le monde du foot. C'est que l'arbitre a arrêté ce match entre Nancy, votre ville d'ailleurs, et Le Mans, pour cause de propos homophobes, qui étaient d'ailleurs scandés contre la Ligue à ce moment-là, et non pas contre les clubs, mais peu importe. Il y a eu d'ailleurs des mêmes cris 2 jours plus tard pour le match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes, et là, et le diffuseur, et les commentateurs n'ont absolument rien dit. Vous estimez que c'est l'époque qui a changé, Olivier Rouillet, et qu'on ne peut plus dire les mêmes choses qu'il y a 20 ans ?
Non, mais ça c'est clair, c'est l'évolution tout simplement. Je pense que nous sommes tous des gens, en tout cas les gens de ma génération, on a vécu des choses fantastiques dans le sport, on a vécu des choses fantastiques dans la société. La société, elle change, la société, elle prend des orientations différentes. Eh bien, il faut accepter de ne plus se retrouver dans un stade de foot notamment, parce qu'il n'y a que dans les stades de foot, c'est ça le gros problème. Quand je vais voir du hand, quand je vais voir du basket, quand je vais voir du rugby, j'entends rien. Il n'y a que dans le foot que j'entends ces propos-là, et ça, c'est insupportable. Donc, notre société, elle change. Eh bien, il faut tout simplement
que la mentalité des stades de foot change et d'arrêter de dire que c'est du folklore, que c'est pas grave, que c'est tout à fait normal qu'on puisse traiter les joueurs de PD, d'enculés, etc. Non, c'est pas possible. Tu m'en parles les joueurs, mais en tout cas, les spectateurs adverses. Non, c'est insupportable. Moi, je peux plus. Je peux plus, tout simplement. C'est un truc qui, maintenant, me sort des yeux. C'est un truc de fou.
Et vous l'exprimez avec beaucoup de force, et merci d'être sur Europe 1 ce soir. Alors, vos propos, évidemment, Olivier Rouillet, suscitent le débat, notamment au 39-21 sur Europe 1. Et nous avons Bastien, qui nous appelle d'une grande ville de football en France, Marseille. Bonsoir, Bastien.
Bonsoir, bonsoir, Olivier.
Nous vous écoutons, Bastien.
Ben, écoutez, moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention, comme tous les jours, l'article de l'équipe, parce que je suis un grand passionné de foot. Et ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans que je suis abonné au stade. Je suis d'accord avec certaines des propos d'Olivier, mais je peux pas être d'accord avec tout, c'est impossible. Alors, je veux bien qu'il prenne de l'âge, hein, donc qu'avec le temps, il y a des choses qu'il supporte plus, comme toutes les personnes, on va dire, au bout d'un certain temps. Je veux bien aussi accepter le fait qu'on peut pas tout cacher derrière le prisme soi-disant du folklore. Moi, qui ai fait beaucoup de déplacements, j'ai vu des choses dans certains stades autrement plus graves que ce qu'on parle là, comme par exemple des saluts nazis et tout. Mais je pouvais pas mettre ça sur le prisme du folklore. Par contre, dire que c'est très grave, non, je suis pas d'accord.
Bastien, réponse d'Olivier Rouillet.
Ah ben, j'ai rien contre Bastien. Je vais simplement lui dire à Bastien que s'il trouve normal et s'il trouve que ce n'est pas grave de traiter quelqu'un de PD, de traiter quelqu'un d'enculé, je regrette. Moi, c'est des choses que je ne comprends plus. C'est pas possible. On peut pas me dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que c'est quand même de dire, parce que quand vous traitez quelqu'un de PD comme c'est le cas, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça représente. C'est presque dire d'une certaine façon que vous n'existez pas, que vous êtes moins que rien. Parce que c'est comme ça que c'est dit. C'est pas du tout, dit, non. Il y a quelque chose, il y a une connotation qui est malsaine.
Que vous ne supportez plus. Réponse de Bastien.
Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de connotation, justement. Alors, malheureusement,
parce que
pour
Bastien,
Olivier,
vous faites partie de ces gens qui disent, je ne suis pas homophobe, mais je suis prêt à dire, comme on le dit à Marseille,
non,
au stade.
Je suis prêt à rien du tout. Moi, je fais ce que je fais un peu ce que je veux en mon âme et conscience. À un moment donné, alors le mot PD, non, je n'accepte pas. Mais quand on dit des mots comme, par exemple, enculé, il faut pas imaginer que les personnes qui disent ça imaginent un homosexuel dans une position défavorable. Ça, il y a que des personnes vraiment. Justement, il faut pas penser toujours sur le qu'on pense à ce genre de choses en arrière-pensée et dire qu'on imagine qu'ils n'existent pas, c'est faux. Moi, je vais vous donner un exemple. Au stade, je vais au stade à Marseille avec des gens qui sont des avocats, des notaires, des chômeurs, des ouvriers, des homosexuels, des pas homosexuels, des grands, des gros. Il y a de tout, moi, là où je vais au stade. Il y a de tout. Et ils crient de tout. C'est un exutoire. Mais à un moment donné, il n'y a pas d'arrière-pensée. Si on commence à imaginer...
Mais en même temps, Bastien,
là, c'est
plus sociétal. Que...
Mais si on commence à imaginer, je finis, qu'il y a des arrière-pensées derrière tous les mots qu'on dit dans des moments de joie, de peine, tout ça, eh ben alors on arrête tout. On arrête tout. On ne fait plus de foot, on ne fait plus de manifestations, on ne fait plus rien. Après, moi, je veux bien qu'il y ait de la prévention. Je veux bien que des personnes comme Olivier se servent de leur image médiatique pour en parler et dire qu'ils sont contre. Mais de là à aller jusqu'à donner des sanctions, arrêter les matchs, on arrête tout, en fait. Voilà, on arrête de faire venir des gens au stade et tout ça.
Bastien, merci Bastien. Olivier, c'est Rouillé, c'est bien ce qui vous gêne, c'est que finalement, cette homophobie exprimée s'est totalement banalisée et devenue un langage du stade. Sans qu'on pense à mal, même. Voilà, comme Bastien l'exprimait.
Je suis d'accord avec lui. Moi, la seule chose que je ne comprends plus et que j'ai dit, vraiment, je ne peux plus l'accepter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, l'exemple de Bastien, pour moi, il est parlant. C'est que quand je vais au rugby, en tout cas, quand je vais au basket, quand je vais au hand, je n'entends pas ce genre de cri. Excusez-moi. C'est là. Alors, je veux bien croire que le football, ça reste un tel lieu d'exposition, d'endroit où on peut peut-être dire des choses, alors qui sont peut-être mal interprétées de ma part. Mais en tout cas, c'est ça qui me gêne. Donc, J'ai envie de dire à Bastien, bah oui, oui, vous avez raison, mais arrêtez de dire
d'utiliser ces termes-là. On a compris votre message, Olivier Rouillet. Merci d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1. Merci à Bastien de nous avoir appelé, d'avoir donné son point de vue. Le stade exutoire, tout le monde s'est félicité de voir qu'en Algérie, par exemple, les jeunes étaient là, autant dans les stades que dans la rue, pour se battre pour leur liberté aussi. C'était ça aussi, le stade. Débat en cours, on va en reparler, on peut en être sûr. Merci encore à Olivier Rouillet.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un tout petit instant, on retrouve notre saga de l'été consacrée au festival mythique de Woodstock. L'un des meilleurs épisodes consacré ce soir au musicien folk Tim Hardin.
Europe 1.
Kill a man. You know, I'm a human being and that's all I want to be.
Il y a 50 ans, la révolution Woodstock. Jean-François Pérez. François Claus.
Il y a 50 ans, jour pour jour, la révolution Woodstock, nous l'avons vécu tout l'été sur Europe 1. 15 épisodes de haute volée avec Jean-François Pérez, que vous pouvez bien sûr écouter sur europe1.fr ou en podcast. Nous avons décidé au cours de cette dernière semaine du mois d'août de retenir le best-of. Choix totalement aléatoire, subjectif avec Cyril Pascal. Nous avons voulu revivre des moments qui ont marqué à jamais l'histoire de la musique, comme ce fut le cas hier avec Madame Janis Joplin. Et on se dit que c'est peut-être l'occasion aussi de revenir par ceux qu'on a trop vite oubliés, qui étaient à Woodstock, qui ont marqué ce festival et qui ne sont pas passés forcément à la postérité, à commencer par ce monsieur qui montre ce soir-là sur scène, Jean-François Pérez.
Eh bien, l'un des esprits les plus tourmentés des années 60, Bob Dylan le considérait comme le meilleur compositeur américain contemporain. Son plus grand succès a été repris par des noms aussi célèbres que Johnny Cash, Robert Plant de Led Zeppelin, John Baez, Elton John et même Johnny Hallyday, mais oui. Mais son addiction aux drogues dures et sa peur de monter sur scène l'ont rapidement poussé vers la marge malgré son immense talent. Tout le monde l'a oublié, ou presque, mais pas nous. Nous sommes le 15 août 1969 à Woodstock, peu avant 22h, dans un état qu'on qualifiera d'incertain. Il prend sa guitare et entame « If I Were a Carpenter », une histoire d'amour toute simple, inspirée au moins inconsciemment de Marie et de Joseph, les parents de Jésus-Christ. Voici Tim Hardin.
If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby ready? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love for loneliness, I save my love for sorrow. I've given you my onlyness. Give me your tomorrow. If I were much poorer than you seem to see me, would you be surer? I couldn't really be me. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby?
Jean-François, la vie de Tim Harding est un roman ou c'est une vie romancée en tout état de cause.
Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il est né en 1941 à Eugene, dans l'Oregon, à 600 km au nord de San Francisco. Il aurait été un lointain descendant de John Wesley Hardin, qui était un célèbre hors-la-loi américain du 19e siècle, pistolero hors pair du Far West, qui comptait pas moins de 30 meurtres à son actif, meurtre d'honneur, assurait-il. À 18 ans, Tim Hardin s'engage dans les Marines, il part en Asie, au Vietnam, bientôt en guerre, découvre rapidement, hélas, l'héroïne. Quand il revient aux États-Unis, il vit de divers boulots éphémères, professeur de guitare à Harvard, à l'université, chanteur à Boston, où il se fait repérer avant de devenir une référence du Greenwich Village à New York, aux côtés de Bob Dylan, Fred Neil et autres futures stars du mouvement folk. En à peine 9 mois, il va composer dans l'anonymat ses titres les plus marquants. Et son heure va arriver enfin en 1966 avec un premier album sobrement intitulé Tim Hardin 1. C'est un chef-d'œuvre, des chansons courtes, ciselées, magnifiquement arrangées au service d'une voix sincère et émouvante. Voici l'une des plus belles, la plus reprise d'entre toutes aussi, qui offrira à Rod Stewart un immense succès, Reason to Believe.
If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe.
Jean-François, Tim Hardin va récidiver avec un deuxième album, sobrement intitulé également Tim Hardin 2, et il est tout aussi réussi.
Oui, et il contient le fameux If I Were a Carpenter version studio, même si la chanson a déjà été créée et reprise par d'autres. C'est l'heure des succès, des récompenses, des grands concerts. Il fait salle comble à Londres sous les yeux de certains Beatles et Rolling Stones. C'est également l'heure de la stabilisation familiale avec son épouse Suzanne Moore, actrice à Hollywood, et puis aussi de son adorable petit garçon.
Mais Jean-François, quand on a un destin rock qui s'accroche à la peau, eh bien le destin revient.
Ouais, victime d'une pleurésie, sans doute liée à ses excès. Il doit d'abord annuler une tournée en Grande-Bretagne. Son comportement est de plus en plus erratique. Alors il va tenter le tout pour le tout en s'installant en famille à la campagne, près de Woodstock, justement. Mais c'est peine perdue. Son mariage vole rapidement en éclats et Hardin s'enfonce dans l'alcool et la drogue au point de vendre les droits de ses propres chansons pour une valise de billets, évidemment rapidement dilapidée. Marginalisé, malgré quelques albums acceptables, mais qui souffre de la comparaison avec les premiers, le chanteur rentre chez sa mère dans l'Oregon avant d'être retrouvé mort chez lui à Los Angeles en décembre 1980, juste après l'assassinat de John Lennon. Overdose de morphine et d'héroïne, la nouvelle ne fera que quelques lignes dans les journaux. Écoutez pourtant encore une fois son génie mélodique à l'œuvre sur un titre repris par Françoise Hardy en son temps, Hang On To A Dream. Accrochez-vous à votre rêve, Tim Hardin sur Europe 1.
What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do, still loving you? It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems?
Que c'est beau, Tim Hardin, ça méritait d'être réécouté. Des festivals d'hier au festival d'aujourd'hui de Woodstock, à Guéret, le temps d'une pause.
Et c'est l'heure, François, de reprendre la route des festivals d'aujourd'hui.
Oui, Johanna, et cette route des festivals va nous emmener vers un lieu absolument inédit, Guéret, département de la Creuse, pour une grande première, car oui, il y a encore des festivals qui naissent aujourd'hui en France. Ça s'appelle Check-in Party, et ça va être 3 jours de rock de très grande qualité, avec une programmation tout à fait riche, dont nous allons parler dans un instant. Je suis heureux d'accueillir le directeur de Check-in Party, David Fourier. Bonsoir, monsieur Fourier.
Bonsoir.
Premier festival, alors on a parcouru la route des festivals en France sur Europe 1 depuis le début de l'été. C'est un tout nouveau né. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous pousser à créer un festival dans cette France aux, dit-on, 6000 festivals annuels?
Eh ben, l'envie d'être bien accueilli sur un territoire, d'en présenter toutes ses facettes et puis de trouver des forces vives qui, à un moment donné, se regroupent pour défendre une ligne éditoriale et une ligne artistique, je crois, un petit peu dissonante, en tous les cas un peu une position un peu alternative en matière de programmation au regard des festivals qui sont offerts sur le territoire. Donc oui, on imagine qu'il y a de la place sur le territoire français pour proposer un rendez-vous avec les musiques indépendantes aux spectateurs français.
Alors les musiques indépendantes, c'est du rock exigeant, pas forcément grand public, très créatif, avec des noms qui vont de... Je suis obligé de le dire dès maintenant, parce que vous avez Patti Smith à Guéret, on va en parler avec Naïma Benchemann dans un instant, mais quelle réussite, c'est elle qui, après-demain, va ouvrir le festival.
Tout à fait, c'est un symbole fort pour nous, c'est effectivement la grande prêtresse du punk rock américain, c'est une figure ultra importante de la culture au sens large, puisqu'on la connaît aussi en tant que poétesse, en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que photographe. Et puis c'est la grande chanteuse des années 70, 80 du New York Underground, donc c'est effectivement pour nous un honneur maximum que de recevoir Madame Patti Smith à Guéret sur ce festival et pour cette première édition.
Et puis avec des noms, quand je parlais de rock exigeant, comme Deer Hunter, par exemple, ce groupe américain très rare et très précieux. Et puis, y aura ça aussi, par exemple, dès jeudi soir. Jeanne Adette, bien sûr, qu'on a reconnue. Au-delà de cette programmation très riche pendant 3 jours, il y a aussi un cadre, un lieu et un territoire particulier. Vous regroupez tout le monde sur, l'aéroport, on dit même l'aérodrome de Guéret.
Alors c'est effectivement l'aérodrome de Guéret qui va recevoir cette première édition de la Check-in Party, c'est-à-dire qu'on a, ça nous a inspiré très largement en matière du choix du nom du festival, et puis bon, on a décliné un petit peu l'ensemble des éléments, on aura la Air Force Stage qui va recevoir un certain nombre de groupes, mais on aura aussi la Spitfire Stage, et tout ça, ça nous a beaucoup nourri, y compris dans la scénographie, dans la décoration du site qu'on a souhaité vraiment soigner pour cette première édition. Donc on a fait appel à une bande de décorateurs qui s'appelle le Grand Géant et qui a investi les lieux avec quelques avions qui apparaissent sur le tarmac. Et on est dans un site assez exceptionnel parce que tout autour de nous, à 360 degrés, on a les monts de Guéret qui nous font face. On nous annonce une météo des plus clémentes pour ce week-end. Donc c'est effectivement un rendez-vous qui doit logiquement tenir toutes ses promesses, avec un retour un peu à la nature, parce que la Creuse est verte, est assez dynamique, et puis c'est un territoire de résistance, un territoire assez emballant en matière de forces vives bénévoles qui se sont mobilisées pour défendre cette manifestation, pour la mettre en œuvre et puis lui donner ce premier élan.
Ce premier élan qu'on souhaite évidemment long et très très vivant pour vous. On parlait à l'instant de Jeanne Adède, il y aura aussi, pour illustrer par exemple, les concerts du vendredi. L'excellent son de Falls qui viennent de sortir un nouvel album et qui vont précisément donner la primeur au public creusois ce week-end, David Fourier.
Tout à fait, il n'y a que 3 dates en France sur la période estivale, cette fin d'été, et on a eu la chance d'avoir l'accord de ce magnifique groupe d'Oxford pour venir fouler la scène du festival Check-in Party. Le dernier album est absolument magnifique, très, très rock, très enlevé, très enjoué, très funk aussi, très dansant, et ça va être une belle conclusion à notre soirée du vendredi. Et sous la Loire, effectivement, si on veut voir les Falls, qu'on habite à Lyon, qu'on habite à Marseille, qu'on habite à Bordeaux, qu'on habite à Toulouse,
c'est à Guéret que ça se passe, et c'est ce week-end.
Absolument, faites venir les grandes villes jusqu'à Guéret, Guéret qui est pile au centre de la France, très, très accessible. Vous cherchez à fixer les gens également pendant 3 jours avec, il faut signaler, une politique de prix très, très attractive, puisque vous proposez un pass 3 jours à 68 euros, et on peut dormir dans un camping juste à côté de la musique. Bref, de vivre le festival au cœur de la nature et au cœur de cette Creuse qui vous est chère, à vous entendre.
Oui, tout à fait. C'est effectivement un vrai accueil qu'on souhaite donner aux spectateurs, qu'on imagine persuadés par la politique éditoriale. Et on imagine bien que ces spectateurs vont venir sur 3 jours participer à la fête, parce que entre Patti Smith, Les Falls, The Blaze, Étienne de Crécy et le reste de la programmation, on a, je crois, une ligne éditoriale qui se tient, qui a du caractère, qui regroupe à la fois les amateurs de rock, mais aussi les amateurs d'électro, et les amateurs de folk, les amateurs de bonne musique indépendante. Et on peut imaginer qu'ils vont venir s'abreuver, se nourrir et donner l'envol à cette manifestation sur ces 3 soirées.
Et pour pouvoir écouter par exemple ça également samedi. Excellent belge de Balthazar, un groupe que j'ai eu l'occasion de voir il y a 2 ou 3 ans en France et qui sur scène produisent une très très belle musique également. On va vous souhaiter bonne chance et longue vie pour cette première édition de Check-in Party, en précisant bien, David Fourier, qu'il reste des places. Donc si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, il fait beau, on peut y aller en train, on peut y aller en bus, en stop, on peut rejoindre Guéret pour aller à l'aérodrome et vivre Check-in Party.
Il reste des places, effectivement, pour les 3 soirées, donc venez nombreux, on sera très heureux de vous accueillir sur ce territoire magnifique.
Longue vie à Check-in Party, on était heureux de partager avec vous, David Fourier, cette première édition.
Et dans une minute, on reste à Guéret au festival Check-in Party avec Naïma Benchemal.
Et sa chronique, Patti Smith.
Europe 1, il est 19h38, c'est l'heure de la chronique de Naïma Benchemal et on reste à Guéret au festival Check-in Party. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to love, because the night belongs to lovers, because the night belongs to love.
Oui, Johanna, vous l'avez compris, on va rester à Guéret, Check-in Party Festival, dont c'est, on l'a compris, le baptême du feu. Cette année sur l'aérodrome de Guéret, et il va y avoir le choc d'une image, car oui, une légende, une icône du rock va inaugurer ce festival sur l'aérodrome de Guéret, Madame Patti Smith. Bonsoir Naïma Benchemal.
Bonsoir François Claus.
Patti Smith, quand je dis icône, légende, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du rock.
Patti Smith, elle est née en 1946 à Chicago d'une mère chanteuse de jazz, et la petite Patricia, elle a toujours eu le son dans le sang. Celle qui deviendra l'icône absolue du rock avec sa crinière brune et son look androgyne quitte son Illinois natal pour tenter sa chance à New York, où elle crée le Patti Smith Group qui, dès 1975, donnera naissance à son premier chef-d'œuvre, Horses.
Album absolument culte, tout le monde a en tête cette pochette blanche et la silhouette androgyne effectivement de Patti Smith, et viendra Easter en 1978, emmené par un véritable hit, Because the Night.
Coécrit avec Bruce Springsteen et le plus gros succès commercial de sa carrière. Because the night belongs to lovers, parce que la nuit appartient aux amoureux, un titre entêtant qui lui ouvrira toutes les voies. 16 years, 16 banners.
Et puis il y aura Dream of Life en 88, Gone Again en 96, Banga en 2012, lectrice assidue de Rimbaud, Patti Smith va aller très vite vers la poésie et en 2010-2015, deux romans autobiographiques deviendront également cultes, notamment le Just Kids et Mr. Train.
Dans ses textes, que ce soit dans ses livres ou dans ses chansons, Patti Smith est une grande poétesse et elle fait preuve d'esprit critique, de colère parfois, de spiritualité souvent. Mixant subtilement chants, textes récités et autres incantations mystiques, ses performances scéniques sont intenses, transportées, à l'image de cet artiste protéiforme qui cultive l'art au sens général du terme.
Constantine, within his dream, awoke. His men, soul alight, pass over the face of the king.
En 1994, Neyma, la vie de Patti Smith bascule. Son, comme elle l'appelait, très cher mari, Fred Smith, meurt, ainsi que son frère, Todd Smith.
En 1996, c'est la sortie de l'album Gone Again, incluant l'hommage à Kurt Cobain, le leader du groupe Nirvana, avec la chanson About a Boy qui relancera sa carrière. Puis, en 1997, elle enregistre l'album Peace and Noise avec le single 1959 qui marque ses prises de position politique, notamment vis-à-vis de la Chine.
Car Patti Smith a toujours cultivé son engagement, c'est aussi une militante de la paix.
De la guerre en Irak qu'elle condamne à l'emprise de la Chine sur le Tibet, Patti Smith profite de son aura et de son statut d'icône pour véhiculer un message dans la spiritualité et l'échange.
Il y aura en 2000 l'album Gung Ho, puis en 2002 cette fameuse compilation Land qui retrace son parcours musical depuis 1975. Patti Smith a toujours été très attachée à la France, elle s'y produit très souvent. Elle y a reçu la médaille de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un, mais pas pour les miens. La toute première phrase du fameux titre de Patti Smith, Gloria, résume parfaitement sa carrière. À 74 ans, l'icône militante du rock à la chevelure désormais devenue argentée garde la même énergie qu'à ses débuts. Elle reste cette femme libre et révoltée qui n'a jamais renoncé à ses idéaux. Indomptable, parfois sauvage, elle a toujours aimé bousculer les genres, se frayant un chemin dans le vivier du rock à coups de militantisme et de phrases bien senties.
Et on imagine que le Gloria sur l'aérodrome de Guéret au milieu du festival va résonner avec beaucoup d'intensité. Merci beaucoup Naïma Benchemann.
Merci François Claus.
De nous avoir fait revivre cette icône de la liberté et du rock et Patti Smith qu'on retrouvera dans la Creuse jeudi soir. Si on rêve un peu, on peut imaginer que la poétesse amoureuse de Rimbaud, l'auteur de Just Kids, va rester à l'écoute.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre.
Europe 1.
Un jour d'été, un livre.
Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir François.
Comme tous les mardis, un livre qui a marqué l'année, Et là, vous vouliez nous parler de l'un de, allez, de vos ouvrages favoris. Faites-vous plaisir.
Le livre de David Thomas. Il a publié cette année « Un homme à sa fenêtre » aux éditions Anne Carrière. Il publie depuis 2009, David Thomas. Son premier livre s'appelle « La patience des buffles sous la pluie ». Et un autre de ses livres est sorti aussi cette année en format poche « Le poids du monde est amour ».
Alors, ce sont très jolis titres. Et que lit-on dans ces livres ?
Alors, tout. Toute la vie, ce sont des micro-fictions en fait, des vignettes, des textes très courts, rarement plus de 2 pages, comme des photos. Dans « Un homme à sa fenêtre », c'est la vie dans toutes ses dimensions. On passe d'un homme qui cultive des melons à une ouvrière qui a travaillé toute sa vie pour se payer enfin un voyage grand luxe à Venise avec bateau privé et palace. Une femme qui, après avoir cherché 25 ans le prince charmant en vain, décide de se marier avec elle-même. L'histoire d'une youtubeuse aussi, ou même un dialogue par texto entre deux ados, une centaine d'histoires qui se suffisent à elles-mêmes, belles, émouvantes, drôles ou tristes.
Alors, vous nous parliez également de la réédition d'un livre en poche.
Oui.
Lequel ?
Alors, comme son titre l'indique, « Le poids du monde est amour », il est question d'amour dans celui-ci. Même principe, des instantanés. Les premiers parlent du célibat. Ensuite, ce sont des histoires de rencontres, des histoires d'amour et des histoires de séparation et ou de bonheur dans le couple. À chaque fois, c'est un personnage différent. Les 100 histoires n'ont rien à voir les unes avec les autres, sur tous les tons, romantiques, crus, très crus parfois même, mélancoliques ou joviales. Et pourtant, à la fin, on a eu l'impression de ne lire qu'une seule grande histoire d'amour, ou plutôt toutes les formes d'histoires d'amour du monde. Ce type est un génie. David Thomas, il publie, c'est bien, mais il est encore trop méconnu selon moi. Ça fait partie de ces quelques injustices de l'édition. Acheter un livre de David Thomas, le poche coûte 6,90 €. Franchement, moi je l'ai toujours sur moi. Je le lis, je le relis. Ça les vaut largement. Vous vous rendrez service.
Eh bien, vous avez gagné un lecteur, parce que je ne le connais pas, David Thomas, et la manière dont vous en parlez me donne envie de m'y plonger. Le poids du monde est amour, en poche donc, rien que pour le titre déjà. Et un homme à sa fenêtre, chez Anne Carrière. Merci Nicolas Carreau.
Merci François.
Europe 1. Et il nous reste à entendre Jean-Claude Perrin pour sa chronique « Héros d'un jour » consacrée à Jeannie Longo.
Héros d'un jour, malheureux ou heureux, mais ils ont marqué l'histoire du sport, quoi qu'il arrive.
Nous sommes le 21 juillet 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, pour la finale de la course cycliste sur route. Je suis à côté de Jeannie Longo pour le départ de l'épreuve qui va se dérouler dans les rues de la ville. C'est une fille de la montagne, elle est née dans l'Isère, elle habite les hauteurs de Grenoble. Elle habite un chalet. Elle est réveillée par le chant des oiseaux. Elle déclarera: j'ai vécu sur un vélo quand j'étais petite. Elle a connu l'athlétisme puis le ski, où elle a rencontré son mari d'entraîneur. Alors, pour elle, commence une carrière dans le vélo. Et elle construira un des plus formidables palmarès au monde. 4 médailles olympiques, 12 titres de champion du monde, 57 titres de championne française. Pour le reste, il faudra consulter maintenant un ordinateur. Jeannie Longo a 37 ans. Et après 2 ans sans compétition, la pionnière du cyclisme féminin s'élance pour gagner le seul titre qu'il manque à son palmarès, le titre de championne olympique. La pluie est arrivée, ce que notre championne déteste le plus. Pourtant, cette pluie sera sa meilleure alliée dans la course. Cette course se déroule en ville, dans les rues même d'Atlanta. Alors que ses adversaires, qui la connaissent parfaitement et la détestent amicalement, sont toutes groupées contre elle. Elle durcit la course et attaque, prenant le contre-pied de ce que les autres coureurs avaient envisagé, c'est-à-dire une course d'attente pour elle, avec 500 derniers mètres rapides pour gagner au sprint.
Jeannie Longo qui pour l'instant mène devant, devant Chiappa et Hughes, la Canadienne. Elle a 17 secondes à quelques kilomètres de l'arrivée. Nous allons vivre son arrivée en direct avec Eugène Saccomano.
Oui, effectivement, Jeannie Longo qui va franchir peut-être la ligne d'arrivée, car attention, Clara Hughes et Imelda Chiappa ne sont pas très loin, mais je pense que Jeannie va résister à la poursuite de ces deux concurrentes. Ce serait une apothéose pour la championne française, car vous le savez qu'elle a pratiquement tout gagné. Elle a gagné beaucoup de Tours de France, 5 ou 6 Tours de France, combien? Je regarde sur ma petite fiche, elle a gagné 3 Tours de France, 87, 88, 89. Elle a terminé deuxième du Tour de France 85. Elle a la médaille d'or. Attention, elle avait la médaille d'argent. Voilà la médaille d'or pour Jeannie Longo. Donc, enfin médaillée olympique après son échec de Barcelone où elle avait terminé deuxième. Et là, ça y est, Jeannie Longo, avec son caractère, elle, la boudeuse, la coléreuse, eh bien, elle a réussi à 38 ans, vous vous rendez compte, à obtenir enfin ce qui était finalement le rêve de sa vie. Car vous vous souvenez de son passé, quand elle disait à droite, à gauche, « Ah, je ne raccroche pas, ah, je vais tenter le record du monde, ah, je vais faire le championnat du monde, ah, je ne me décourage pas pour les Jeux Olympiques. » Eh bien, elle y est arrivée.
Jean-Pierre Montané sur la ligne d'arrivée et il a Longo au bout du micro.
Quel est ce titre? Vous en rêviez car vous avez tout lu sauf celui-ci.
Bah oui, j'en rêvais justement, comme vous le dites, je rêvais, c'est-à-dire que pour moi c'était encore de la fiction parce qu'une épreuve jouée sur 4 ans, sur un circuit pas forcément très très sélectif, je trouvais que c'était aléatoire quoi. Donc je me contentais d'en rêver.
Vous êtes la plus forte?
Bah écoutez, aujourd'hui je pense que je l'ai peut-être été, oui, disons que. Finalement, moi qui déteste la pluie, ça a joué en ma faveur parce que ça a durci la course. Parce qu'on s'est mis à rouler à partir de la pluie, parce que tout le monde craignait les chutes. Et moi, ça me plaît beaucoup quand on roule comme ça. Quand on est les unes derrière les autres, c'est ce qui me plaît mieux.
Sa préparation s'est effectuée en altitude, dans le Colorado. Elle a toujours fait, dans sa carrière, bande à part, rejetant souvent le système pour s'isoler totalement. Athlète de poche, 1m64, 68 kg, elle traverse les âges. C'est une adepte de l'effort absolu. Elle s'est construite dans la rivalité et ses relations avec les autres championnes ont souvent été marquées par des différends importants, voire franchement polémiques. Elle a toujours été solo. Elle est la plus grande championne du sport féminin français, tant par ses exploits que par sa forte personnalité. Elle est pour moi l'exemple parfait de la longévité au top niveau. Elle le doit au sérieux, à sa rigueur. Elle incarne tous les symboles de la réussite suprême. Mais pour moi, son unique secret, c'est surtout une motivation sans faille. Voilà pourquoi, personnellement, je suis admiratif devant cette fille. Au lendemain de son succès, Jeannie Longo n'a pas sablé le champagne de la victoire olympique avec les dirigeants français. Non, elle a immédiatement repris l'avion pour le Colorado. C'est là, à 3000 km d'Atlanta, en altitude, avec son mari, où elle s'est installée pour préparer le rendez-vous américain. Car pour Jeannie Longo, les Jeux ne sont pas terminés. Elle va s'aligner au départ du contre-la-montre, 12 jours après la course sur route. Et bien qu'émoussée, elle est médaille d'argent. C'est vraiment une belle Olympiade pour elle.
L'inimitable enthousiasme de Jean-Claude Perrin, et qu'est-ce que c'est bon d'entendre la voix de l'ami Eugène Saccomano. Sacco, comme on l'appelle ici, on pense bien à lui, il est dans le sud là-bas, et c'est une forme d'hommage que nous voulions lui rendre également avec Marc Fréjean, le réalisateur. On se quitte, Johanna, mais pour mieux se retrouver demain.
À demain, François.
Et on retrouvera, j'espère, nos nombreux auditeurs avec les remerciements à toute l'équipe du 18-20, Cyril Pascal, Naïma Benchemann, Emmanuel Calma, qui, sans eux, cette émission n'existerait pas. Et puis Pierre-Louis Moget qui vous accueille au 39-21 tous les soirs.